Jean Bar, extrait des Enfants célèbres de Louise Collet. Dunkerque était au pouvoir des Espagnols depuis 1652. Turenne, vainqueur de la fronde sur tous les points de la France, fit le siège de cette ville en 1658. La flotte anglaise le secondait, car la politique avait décidé Louis XIV à se faire momentanément l'allié de Cromwell. Le prince de Condé et Don Juan d'Autriche défendaient la place assiégée. Les habitants de Dunkerque faisaient des vœux pour le jeune roi de France et souhaitaient que la ville fût prise par lui et pour lui. Mais en même temps, toute cette population de marins, ennemis nés des Anglais, s'indignait de les voir unir leurs armes à celles de la France. Dans cette alliance, elle voyait de la part de l'Angleterre l'arrière-pensée de s'approprier Dunkerque. C'était par une soirée du mois de juin, durant ce siège mémorable. Un groupe de marins s'était formé devant une petite maison de la rue de l'Église, ainsi nommée à cause de la cathédrale, alors si célèbre par son merveilleux carillon. Le bruit des batteries anglaises et françaises ne paraissait pas à ce moment préoccuper les marins réunis. Ils s'informaient avec anxiété, à la porte de la maisonnette, de la santé de l'intrépide corsaire Corneille Barre, qui avait été blessé récemment en tentant d'enlever un navire anglais. Depuis un mois, il ne pouvait quitter sa chambre, lui dont la mère était l'élément. Un vieux marin qui servait de domestique au corsaire assurait à ses compagnons assemblés sur la porte que leur maître allait mieux. Le médecin n'avait pu extraire la balle qui avait pénétré dans les chairs. « Mais enfin, répétait le matelot, on peut vivre avec une balle sous la peau, et j'espère que notre chef vivra. Il reprend des forces. Il s'est levé aujourd'hui. Bonsoir, mes amis, et bonne espérance. » Ayant parlé ainsi, le vieux marin attaché au service de Corneille Barre referma la porte de la maison et rentra dans la chambre de son maître. C'était une pièce éclairée par une fenêtre en ogive. Les murs étaient tapissés de cuir bosselé d'or. Un grand lit de noyer massif à colonne torse s'élevait au fond. Sur ce lit était assis un homme de haute taille, à cheveux blancs et à moustache encore blonde. Une femme soutenait le blessé, et un robuste enfant à longs cheveux blonds, assis à ses pieds sur l'estrade du lit, tenait une de ses mains rudes qu'il baisait. Cet enfant pouvait avoir environ 9 ans. Il était d'une taille moyenne mais forte. Son front était large, ses sourcils épais. Son œil vif et bleu exprimait une résolution au-dessus de son âge. Son teint hâlé annonçait la vigueur et la santé. « Chausse les mules de ton père, » dit la femme, sur qui le blessé s'appuyait. « Puis nous le soutiendrons ensemble, et il essaiera de marcher un peu. » L'enfant obéit. Ses petites mains se faisaient câlines et allaient doucement pour ne pas heurter les jambes affaiblies du corsaire. « Oh, ces maudits Anglais que je les hais !» s'écria-t-il, un gémissement du blessé. « Si je pouvais leur rendre la blessure qu'ils vous ont faite, mon père !»« Patience, patience ! Ils sont en ce moment les alliés de notre jeune roi. Cela nous oblige à suspendre nos haines, mais l'heure reviendra où nous pourrons leur courir sus. » Le regard du vieux corsaire s'enflamma. « Mon père, dit le petit Jean, vous me conduirez avec vous. » « Oui, et si je ne peux t'y conduire, tu iras tout seul. » « Car vois-tu, mon fils, c'est une guerre de race, et les barres, de père en fils, ont pourchassé ces chiens d'outre-mer. » Le blessé porta la main à son flanc droit. Il avait pâli. « Vous souffrez beaucoup, » lui dit sa femme, alarmée. « Cette balle anglaise est là comme un affront, » répliqua Corneille Barre. « Ah, si je pouvais l'arracher !»« Vous me la donneriez, mon père, » reprit l'enfant, « et je vous assure qu'elle tuerait un de ces Anglais. » « Quel enragé !» dit le vieux marin qui faisait le service de la famille et qui venait de rentrer dans la chambre. « Vous n'avez pas besoin de balles, jeune maître, pour les houspiller. Et ce matin, votre bateau et vos poings vous ont suffi pour mettre en sang le petit John Bridge. »« Qui est John Bridge ?» dit le blessé. « Le fils de cet ancien bosseman anglais, notre voisin, » reprit le matelot. « Pourquoi l'as-tu battu, petit ?» dit le père. « Parce qu'il disait d'un ton goguenard que vous ne monteriez plus sur votre vaisseau pour donner chasse aux siens. »« Toujours des querelles, » murmura la mère effrayée. quoi ? Mère, vous ne m'approuvez pas ? Je bats les Anglais parce que les Anglais ont blessé mon père.
Laissez faire votre fils, maîtresse, reprit le vieux matelot. C'est un brave enfant, dont on parle déjà sur toute la côte.
Voyez-vous, c'est fier ce qu'il a fait il y a un an, ce petit homme-là. Lorsqu'avec ses deux mousses de Hollande, il s'en est allé bravement à travers la haute mer sur le canot qu'il vous avait pris. Le temps était calme d'abord, mais au retour le vent était d'aval. La bourrasque éclate, notre petit capitaine dirige la barque, il rame, les mousses hollandais avaient peur, il leur fait honte et rentre triomphant dans le port.
Vous oubliez mon inquiétude et vous l'encouragez dans ses folies, objecta la mère.
Mon ami, poursuivit-elle en se tournant vers le malade, il faudrait réprimander Jean et lui défendre d'être toujours sur le port, dans les agrès ou dans les mâts des vaisseaux. Il serait cependant bien temps qu'il apprît à lire.
Je ne veux pas en faire un clerc, répondit le père, qui semblait se ranimer en entendant parler de l'audace de son fils. Il sera brave comme son grand-père Antoine Barre, qui est mort avec gloire sous le canon de l'Anglais.
Mon grand-père est mort blessé par les Anglais ? S'écria le petit Jean Barre, pourpre de colère.
Oui, mon enfant, lui aussi tué par eux, mais du moins mort dans le combat, répliqua le malade en gémissant.
Vous ne mourrez point, vous, mon ami, et vous pourrez encore vous venger de ceux qui vous ont blessé, ajouta sa femme.
Corny Barre secoua tristement la tête.
Que Dieu t'entende, murmura-t-il. Je voudrais seulement pouvoir mener notre Jean en mer une fois contre l'ennemi, puis je mourrai content.
Ce sera, mon père, dit le petit Jean, en se pendant au cou du blessé.
Mais racontez-moi la mort de mon grand-père. Il y a longtemps, bien longtemps, que vous m'avez promis cette histoire.
Entends-tu le canon qui gronde ? Dit Corny Barre.
Cet accompagnement convient à mon histoire. Écoute et souviens-toi toute ta vie qu'ils ont tué ton grand-père et qu'ils m'ont blessé, moi, peut-être, à mort.
Ma vie sera vouée à les exterminer, s'écria Jean, les deux poings serrés.
Parlez, parlez. Vos paroles se graveront en moi comme ces boulets qui trouent en ce moment les murs des remparts.
Le père se leva et dit
« J'aurai plus de force en parlant debout. »
La mère l'épiait, anxieuse.
« Maître, puis-je rester pour vous entendre ?» dit le serviteur.
« Oui, mon vieux, va chercher ton chantier et ta galère. Vous travaillerez tous les trois en m'écoutant. »
Le matelot sortit, et après quelques instants il revint, tenant dans ses bras une petite galère en bois des îles qui était un chef-d'œuvre d'exécution. Aucun détail n'avait été oublié. Elle était armée en guerre avec de petits canons de fonte. Il ne restait plus à poser que les cordages, les voiles et la tente d'honneur qui se dressent à l'arrière du navire.
« Maître, dit le vieux marin, j'attends toujours un peu de toile de Hollande pour mes voiles et un morceau de lampas pour mon tendelet. »
Corny Barre regarda sa femme. La ménagère s'approcha d'un bahut sculpté et en tira, comme à regret, les fragments d'étoffe demandés.
« Voilà, dit-elle. Je vais les tailler et les coudre moi-même afin que rien ne soit perdu. »
Elle prit ses grands ciseaux de fer, son dé et ses aiguilles, se plaça sur une chaise basse à dossier élevé, puis, agile, elle ajusta de ses doigts les bandes de toile blanche et un carré de lampas pourpre et or.
« Moi, dit Jean, saisissant du gros filet cru, je vais tendre les cordages. »
Et il s'agenouilla devant le vieux matelot qui soutenait la petite galère sur ses genoux et qui, délicatement, y posait quelques vis oubliées.
Corny Barre, sans songer à sa blessure, se promenait à grands pas dans sa chambre. Il jeta un regard sur son auditoire, et satisfait de son air attentif, il commença son récit, tandis que le canon des assiégeants continuait à gronder.
« Mon père, Antoine Barre, ton grand-père, mon petit Jean, avait pour ami le fameux capitaine de navire, Michel Jacobsen, surnommé le renard de mer. C'était un grand, fier, bel homme, dont le peintre des rois, Rubens, avait fait le portrait.
« Oh, ce portrait, je l'ai vu une fois !» s'écria Jean, « quand j'étais tout petit, et je m'en souviens bien. »
C'était un homme brun à grand visage, cheveux et moustaches noires. Sa poitrine était couverte d'un corset d'acier, sur lequel était jetée une écharpe rouge. Dans la main droite, il tenait le bâton de commandant, et l'autre main était appuyée sur un beau casque luisant. Puis dans le fond, c'était des navires, bataillés flots remués par la tempête, comme le jour où je suis allé en haute mer en compagnie des deux petits mousses de Rotterdam.
« C'est bien cela, mon enfant, » reprit Corny Barre. Et puisque tu te souviens de ce portrait du renard de la mer, c'est comme si tu te souvenais de l'avoir vu vivant. Donc le renard de la mer et ton grand-père étaient comme frères. Un soir d'hiver, nous étions réunis ici dans cette même chambre, bien chaudement près d'un bon feu, fumant du tabac de Hollande et buvant de l'ale d'Angleterre. Un corsaire, ami de mon père, nous racontait ses courses lointaines et ses combats. Je l'écoutais comme tu m'écoutes. Tout à coup la porte s'ouvre et le renard de mer apparaît, enveloppé d'un long manteau goudronné tout ruisselant d'eau. Il pleuvait à torrents et la mer était grosse. Sous son manteau, le renard était armé en guerre. « Antoine, dit-il à mon père, j'ai besoin de toi, de ton fils, de ton équipage et de ton brigantin. »« Quand cela ? » dit mon père. « À l'heure même, répond le renard, et pour aller en haute mer. » « Nous allons, mon fils et moi, nous armer pour te suivre, » dit simplement mon père. Ce fut bientôt fait. Nous sortîmes tous les trois et nous nous rendîmes au port. La nuit était sombre. 11 heures sonnaient au carillon. Nous trouvâmes notre brigantin, la rondelle de mer, avec tout son équipage à bord. C'était le vouloir de mon père. Il fallait que l'on fût prêt au départ à toute heure. Le bosseman leva l'ancre. Quand nous fûmes en pleine mer, le renard fit apporter sur le pont des pics, des coutelas, des espontons, des haches d'armes, et dit à chacun de s'armer pour être prêt au point du jour pour n'importe quelle chance. Une fois armé, tout l'équipage se mit en prière. Nous naviguâmes ainsi toute la nuit, sous très petite voile, à cause de la bourrasque. Quand le jour parut, un mousse qui était en vedette au haut du grand mât de hune cria « Je vois deux gros vaisseaux et un autre plus petit !» Le visage du renard de mer s'empourpra d'orgueil. « Enfin, enfin, les voici » s'écria-t-il joyeusement. Alors seulement il apprit à mon père qu'il avait ordre d'attirer les croiseurs anglais loin du port, afin d'en laisser l'entrée libre à un convoi considérable qui nous arrivait du nord et qu'on avait signalé dès la veille. « Mon vaisseau était en radoube, » ajouta le renard de mer. « Voilà pourquoi je t'ai demandé le tien, Antoine. »« Oh, merci, » répliqua mon père. « Ils vont avoir une danse, les trois Anglais. »« 1 contre 3, » reprit le renard, « ce sera rude. Il faut mettre le feu au ventre de nos jambes pour qu'il ne recule pas. » Mon père et le renard haranguèrent l'équipage. Tous jurèrent de mourir pour Dieu et pour le roi, et que l'ennemi n'aurait d'eux ni os ni chair vive. On fit apporter un tonneau d'eau-de-vie et on le distribua. Les gens de l'artillerie se barbouillèrent le visage avec de la poudre, on aurait dit des Africains. « Et les trois vaisseaux des Anglais ?» demanda le petit Jean Bart avec impatience. « Ils arrivaient toujours sur nous, leurs voiles déployées. Mon père et le renard ordonnèrent au pilote de virer de bord sur le plus proche vaisseau de l'ennemi. C'était un petit navire moins fort que notre brigantin. Nous lui donnâmes 2 bordées dans la quille et il fut coulé. Alors les 2 grosses frégates anglaises firent sur notre pauvre rondelle de mer un feu si formidable que la moitié de notre monde resta tuée ou blessée. Mais aussi, mon fils, quelle gloire, quelle défense! Seul contre 3 vaisseaux, seul nous en avions détruit 1, et les 2 autres nous approchaient à peine, tant nous combattions avec rage et furie au cri de « Vive le roi !» Nous brandissions nos piques. Nous appelions les Anglais à grands cris « Abordez, abordez donc !» Ici, le pâle visage de Corneille Barre se colora tout à coup. Sa voix s'altéra et il s'appuya contre le mur tout chancelant. « Seigneur Dieu !» s'écria sa femme accourant. « Vous vous faites du mal en vous animant ainsi. Laissez-moi, laissez-moi et silence, écoutez !» répliqua brusquement le conteur, tout à l'action de son souvenir. Les Anglais, défiés par nous, à bord de chaque côté du brigantin. Ce fut une joyeuse et sanglante mêlée. Hache en main, coutelas au poing, on s'attaqua à Omahom. Les 2 frégates avaient de quoi remplacer ceux qui tombaient, tandis qu'il ne restait plus des nôtres qu'un petit nombre debout, et encore étaient-ils tous saignants. Mon père avait reçu 3 coups de pique. Le renard, une arquebusade dans le corps. Le pont se couvrait de morts et d'agonisants. Le canon ennemi éventrait notre brigantin. Le renard s'approcha de mon père et lui dit sourdement « Allons, Antoine, le feu aux poudres et à la grâce de Dieu. Il ne faut pas que ces hérétiques nous aient vivants. »« Oh, que cela est beau, que cela est beau !» s'écria le petit Jean, transporté, et en embrassant son père, dont le visage devenait de plus en plus livide. Je vois encore, poursuivit le corsaire, le renard de la mer, debout sur le pont, cramponné de tout son poids au capitaine anglais, qui nous avait abordé avec plus de 100 des siens. « Feu, feu !» criait le renard à mon père. L'explosion se fit, tout fut englouti. J'avais senti une épouvantable secousse, puis je perdis tout sentiment. La fraîcheur de l'eau me fit revenir à moi, et je me trouvai suspendu à un débris. Je vis des Anglais qui, dans leur chaloupe, allaient çà et là recueillant des naufragés. Je fus ramassé comme les autres. Mon père était mort. Le renard de la mer était mort. De notre équipage, il restait deux hommes. De notre brigantin, quelques planches. Mais aussi, des deux frégates anglaises, il n'en restait plus qu'une désemparée. L'autre avait coulé par l'explosion de notre brigantin. Pendant ce temps, le grand convoi qui arrivait du nord rentrait à Dunkerque, et j'allais prisonnier en Angleterre avec les deux matelots qu'on avait sauvés. « Voilà, mon fils, ce qu'a été ton grand-père. Ce que j'ai été, sois digne de nous. » À ce dernier mot, un flot de sang jaillit de la bouche de Corneille Barre. « J'étouffe, » dit-il faiblement. « Oh, c'est la balle anglaise !» Et il s'affaissa sans vie dans les bras de sa femme et de son enfant. « Mon père, mon père !» s'écriait Jean. « Les Anglais aussi t'ont tué. » Puis, se tournant vers sa mère, « Oh, les Anglais !» ajouta-t-il avec une expression terrible. « Je les exterminerai un jour et j'en délivrerai la France. » 6 ans après, Jean Barre faisait sa première croisière comme capitaine en second. Notice sur Jean Barre. Jean Barre naquit à Dunkerque en 1651. Il était fils d'un pêcheur corsaire. Louis XIV se plut à l'honorer au milieu de sa cour et le nomma chef d'escadre. Jean Barre justifia la confiance du roi. 32 vaisseaux de guerre anglais et hollandais bloquaient le port de Dunkerque en 1692. Jean Barre en sortit avec 7 frégates et dès le lendemain s'empara de 4 navires anglais richement armés qui faisaient voile vers la Russie. Dans le cours de la même campagne, il brûla plus de 80 bâtiments ennemis, fit une descente vers Newcastle, ravagea tout le pays des environs et revint à Dunkerque avec plus de 1 500 000 francs de prise. La même année, il s'empara de 13 navires hollandais chargés de grains. Jean Barre se trouva la fameuse journée de Lagos, où 87 navires de commerce et plusieurs vaisseaux de guerre anglais furent pris et brûlés. La perte des vaincus en cette occasion fut évaluée à plus de 25 millions de livres. Il obtint des lettres de noblesse de Louis XIV. En 1696, il remporta de nouveaux triomphes contre les flottes réunies de l'Angleterre et de la Hollande. La paix seule interrompit ses travaux. Il passa les dernières années de sa vie à Dunkerque, où il mourut d'une pleurésie, le 27 avril 1702. Il ne laissa pas de descendance directe, mais son nom glorieux s'est perpétué par la famille de Gaspard Barre, son frère. Le 16 février 1855, mourut à Wormhout, grand et joli bourg formé par de charmantes habitations et à quelque distance de Dunkerque, le dernier héritier du nom de Jean Barre, Henri-Ferdinand-Marie Barre, commis principal des subsistances de la marine en retraite, âgé de 74 ans. Il était né à Dunkerque et fut adopté à l'âge de 17 ans par sa ville natale, qui se chargea de son éducation. Il était petit-fils du commandant de la Danaé. Il eut pour fils un émule de ses illustres ancêtres, Jean-Pierre Barre, lieutenant de vaisseau, commandant de la gabarre de l'État à la Sarcelle, mort à l'île Bourbon à 36 ans. Après la mort de ce fils, le père, représentant d'un nom si glorieux, vint habiter avec ses deux filles sa ville natale, où il assista à l'inauguration de la statue de Jean Barre, gloire de sa race, puis il se retira à Wormhout, où il est mort.